diagramme, avez-vous remarqué, on a lu un petit bout de Jean 1. Ben, c'est là qu'on va. T'avais-tu dit que c'était le texte que j'avais... Non? Ah, oh, ben. Amen. On va lire deux versets. On va lire d'autres versets à travers le message, mais je veux vraiment attirer votre attention sur le premier verset puis le dernier verset de notre texte. Et on va en lire d'autres à travers le message. C'est un message bien simple et court. Mais j'aimerais qu'on lise dans Jean 1, le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et on va lire aussi le verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Ben, c'est ça un peu. Il semble que je suis fort. Ben, c'est-tu fort, mon affaire, non?
Non.
OK. Seigneur, merci qu'on peut s'arrêter en toute simplicité avec ta parole. Elle vient d'être chantée de belle façon et amenée avec la proclamation de l'Évangile en chant. Et maintenant, Seigneur, on veut s'arrêter avec ce texte béni, l'ouverture, le prologue de Jean. Et merci qu'on peut s'arrêter simplement comme ça pour considérer la vie que tu es venu communiquer, la lumière du monde. Et Seigneur, amène cette lumière dans chacun des cœurs, aujourd'hui, ce matin même. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message est bien simple, « La grâce de l'incarnation ». Et Jean, qui est un apôtre à part, on peut dire que, bon, il fait partie des 12, mais il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient uniques à Jean. Dans son caractère, on l'appelle l'apôtre de l'amour. C'est celui qu'on voit dans le cercle le plus rapproché. Il y avait Pierre, Jean, Jacques qui étaient les trois plus proches. Mais même dans les trois, Jean était celui qui avait cette intimité vraiment unique avec Jésus. C'est le seul qui a été, par exemple, lorsque Jésus a été à son faux au tribunal, là, son faux procès, là, son procès kangourou, lui a été admis. Puis bon. Il y a toutes sortes de choses de même, mais aussi on voit dans l'Évangile que c'est bien différent des autres. Tous les Évangiles commencent, bon, puis Marc c'est très très succinct, mais avec au moins un peu la naissance terrestre de Jésus, les parents, puis tout ça. Jean, lui, commence dans l'éternité, et c'est ce qu'on voit dans les premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais c'est qui ça, cette parole? Je vais être content que vous demandiez parce qu'on l'a lu, mais on va le relire. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole faite chair, c'est Jésus. Jésus, la parole éternelle, le Logos, c'est vraiment ici... Une entrée en matière très glorieuse, je veux dire, ça présente Jésus d'une façon très unique. Et on peut voir là-dedans, oui, OK, il y a le Dieu de toute éternité, mais on voit aussi dès le début comment il est venu à nous. Il est venu nous rencontrer, oui, c'est le Dieu de toute éternité, mais il n'est pas resté dans son ciel au loin. Il est venu nous rencontrer dans la grâce de l'incarnation. Incarnation, ceux qui parlent l'espagnol, carne, en roumain aussi, c'est ça. Ça veut dire, dans la chair incarnée, incarnation, Dieu est venu dans la chair. Oui, c'est le Dieu éternel qui est esprit, mais il a pris un corps et il est venu à nous. Et ici, ça qualifie plein de grâce et de vérité. On va avoir toutes sortes de vérités dans le message, mais j'aimerais qu'on voit ensemble la grâce de l'incarnation. Et là, aujourd'hui... On est le 21, il reste un message ensuite pour ceux qui sont ici à tous les dimanches. On a fait tout l'Évangile de Jean à travers l'année. Là, on commence le couronnement de ce thème de l'année avec le message d'aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, on va faire dans Jean 21 pour terminer ça en beauté. Et je crois qu'aujourd'hui, l'occasion de Noël est une occasion bien spéciale et appropriée pour considérer ensemble la grâce de l'incarnation. Et donc, on va regarder simplement cinq grâces de l'incarnation qu'on a dans notre texte. D'abord, au verset 14, qu'on a déjà lu deux fois, on voit la grâce de sa présence. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La grâce de sa présence ici, cette grâce s'exprime ou se révèle, si vous voulez, par la vérité d'Emmanuel. Dieu avec nous, il a habité avec nous. Emmanuel, ça avait été prophétisé dans Ésaïe. On va voir plusieurs versets d'Ésaïe ce matin. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et c'est quand même spécial que l'intronisation, c'est quand que un roi se fait présenter, OK? Donc, l'intronisation du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du plus grand roi qu'il a jamais eu, ça s'est fait dans une manière tout à fait non conventionnelle, dans une étape, un peu comme oubliée. Puis les gens qui sont venus, c'est pas les grands de ce monde pour l'adorer, c'est des bergers, des gens qui étaient, en fait, méprisés comme étant des gens de rien. C'est un métier qui était vu comme vraiment un des métiers très bas de la société. Et c'est comme ça qu'il se présente à nous, le roi du monde. Pourtant, toujours Ésaïe nous dit que un enfant nous est né, ça c'est Jésus dans son humanité, un fils nous est donné, ça c'est sa divinité, le fils de Dieu. Hein? Puis ça nous dit ensuite, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Jésus, le roi du monde, qui a été introduit, oui, d'une façon bien humble, mais néanmoins, il est quand même venu usurper. Non, excusez, il est venu prendre le royaume qui avait été usurpé par le trompeur, l'usurpateur, celui qui avait, par la ruse, pris ce qui nous revenait de droit par Dieu. Dieu nous avait donné la domination de ce monde. Satan est venu avec le mensonge en faisant passer Dieu comme pour ce qu'il n'est pas. Et on s'est placé sous le règne de Satan en faisant pas confiance à Dieu. Jésus, quand il est venu, il a rétabli ce règne-là. Le règne d'Adam, qui est un règne de péché et de mort, a été brisé par ce roi qui est venu bien humblement, mais triomphalement. Et donc, je vous pose la question ce matin, quel règne veux-tu? Le règne du Fils de Dieu qui est venu à nous plein de grâce et de vérité, ou ton règne, et si tu ne te places pas sous le règne du Dieu vivant, ben tu es automatiquement sous le règne de ce monde, du prince de ce monde. Et donc, quel règne veux-tu? Et pour le dire plus clairement encore, qui règne sur ta vie? Il y a juste deux options. Il n'y a pas d'entre-deux. Parce que, bibliquement parlant, c'est où l'humanité se sépare en deux. Il y a ceux qui sont en Adam, ça c'est comment qu'on est dans ce monde. Puis par la nouvelle naissance, lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur, on est en Jésus-Christ. C'est soit un, c'est soit l'autre. La tête de l'un, celui qui règne sur l'humanité déchue, c'est Adam, avec la mort, le péché et la mort, et celui qui règne sur l'humanité rachetée, ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, celui qui règne, c'est Jésus. Et donc, c'est le premier point, le règne de sa présence. Est-ce que sa présence est dans ta vie? Est-ce que tu es passé de la mort à la vie par la grâce de Dieu? Deuxième chose qu'on voit, c'est le règne de sa préexistence avec de sa préexistence avec le verset 15. Jean, ici c'est Jean-Baptiste, là. C'est pas Jean qui a écrit l'Évangile, c'est Jean-Baptiste. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Ben oui, parce que Jésus est la parole éternelle, il a existé de toute éternité. Donc sa préexistence, qu'est-ce qu'on peut voir avec la grâce de sa préexistence? Ben, cette grâce s'exprime par la vérité de l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom de Dieu qu'on voit beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est le « Je suis ». Et dans l'Évangile de Jean, Jésus utilise 14 fois l'expression « je suis ». Cette fois, c'est très évident comme « je suis le pain qui est venu du ciel, je suis la résurrection et la vie ». Puis cette autre fois, c'est plus subtil, comme « avant qu'Abraham fût, je suis ». Ou quand ils sont venus dans le jardin pour l'arrêter, ils ont demandé « est-ce que tu es Jésus ?» Puis il a dit « je suis ». Pouf, ils sont tous tombés à terre. Okay? Parce que c'est Jésus qui s'est révélé dans, tel qu'il est et l'omnipotence de qui il est. Et là-dessus, j'ai retenu Ésaïe 40, verset 28. « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Ben, ce Dieu qui a été de toute éternité, c'est lui qui est venu à nous dans la personne de Jésus-Christ. Et oui, Jésus, c'est Dieu avec nous. Jésus a expérimenté ce qu'on appelle, puis là je vais vous donner un mot théologique, peut-être qu'ici ils connaissent déjà, la kénose, c'est-à-dire il n'a jamais arrêté d'être Dieu, mais il s'est dépouillé de certains attributs divins. Pour ça qu'il était constamment, il dit, tout ce que je vois faire le Père, je le fais. Il était dans une dépendance totale et absolue en toute chose, à tout moment. Et donc ça nous dit que Jésus a laissé, il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en se rendant serviteur. Puis serviteur, c'est le mot esclave, puis il a été jusqu'à la mort, puis pas n'importe quelle mort, la mort horrible et honteuse de la croix. Pensez à ça, le roi légitime, celui qui a tout créé, il a accepté de tout laisser ça de côté pour venir mourir pour nous. En fait, on pourrait dire, pour nous rencontrer dans notre perdition, pour nous délivrer de la perdition, puis avec l'œuvre merveilleuse qu'il a faite pour renverser toute cette perdition par le sacrifice merveilleux de la croix. Et là-dessus, je vous lis avant de passer au prochain point, Colossiens chapitre 2, verset 9 à 15. Écoutez bien ça, car en lui, puis là ça nous parle de Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui, en Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Écoutez verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Est-ce que, avec ce que j'ai lu, est-ce que tu peux dire que tu as expérimenté le verset 13? Est-ce que toi qui étais mort dans tes offenses et l'incirconcision de ta chair, tu as été rendu à la vie avec lui? Je ne te parle pas d'une religion, je ne te parle pas d'un assentiment intellectuel, je te parle d'une transformation surnaturelle de la grâce de Dieu. C'est ça, la nouvelle naissance. Puis, enfant de Dieu, est-ce que tu marches à la lumière de Dieu? Est-ce que tu marches à la lumière de ce que Dieu a fait de toi? Est-ce que c'est ton identité, c'est ta sécurité? Est-ce que c'est ce qui te définit, ce que Dieu a fait de toi? Ça m'amène à la troisième grâce, au verset 16, la grâce de sa plénitude. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Ici, on voit cette grâce qui s'exprime par l'expiation. C'est quoi l'expiation? C'est Dieu qui nous fait grâce de tout péché. « Venez, plaidons, dit l'Éternel dans Ésaïe 1, 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ça c'est un rouge vif, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et donc, la grâce de l'expiation, parce que c'est impossible à l'homme de se sauver lui-même. Avec des lois qui peuvent se donner, des religions, des efforts, c'est impossible de faire mieux ou de faire l'équivalent de ce que Jésus a accompli une fois pour toutes. Il l'a fait pour nous, il l'a fait à notre place, et c'est par pure grâce. Et la plénitude de sa grâce, c'est pour tous ceux qui sont prêts à la recevoir Dieu. Il ne donne pas avec mesure. Il donne pleinement. Si on s'humilie devant lui, il va nous donner toute la grâce dont on a besoin pour être sauvé puis pour vivre en lui. Dieu ne dit pas, OK, là, tu es un bon petit garçon, une bonne petite fille, il va t'en donner un peu plus. Non, si on reçoit Jésus, on reçoit toute la grâce de Dieu au complet. On l'a vu tantôt, on est complet en lui, on a toute la plénitude de la grâce. Et donc, c'est quoi? C'est un salut parfait et c'est une réconciliation complète. C'est ça qu'on a par le salut en Jésus-Christ. C'est ça aussi l'idée de grâce sur grâce. On est sauvé par la grâce, puis même une fois qu'on est sauvé, Dieu rajoute de la grâce, puis il y a tout le temps plus, parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Et c'est pour ça que ça dit dans Romains, au chapitre 5, verset 20, là où le péché a abondé, qu'est-ce qui a surabondé? La grâce. Ça m'amène à la quatrième grâce, la grâce de sa provision, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ou ont été données par Jésus-Christ. Cette grâce s'exprime par l'émancipation. Écoutez Ésaïe 40. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Autrement dit, faites de la place, faites de la place. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et savez-vous quoi? Ce moment est venu. Ça prophétisait sur ce que Jean-Baptiste faisait. Préparer le chemin, le Messie s'en vient. Bien, il est venu, puis il a accompli sa mission. Dieu a pourvu. Sur la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. C'est ça l'émancipation, la libération que Jésus a donnée en venant à nous. Il n'est pas venu avec la loi, il est venu avec la grâce et la vérité. Puis il est venu dans une mission de libération. Écoutez, ce verset-là, c'est le verset que Dieu m'a donné. J'aime tellement ça. Il m'a donné ça pour le ministère de prison que je fais. Puis j'aime ça, dire ce verset-là, le partager avec les gars. Parce que des fois, le plus gros problème qu'ils ont, puis souvent, savez-vous quoi? C'est un heureux problème à avoir, à dire, est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner? Parce qu'ils voient tellement leurs besoins comme grands qu'ils pensent que ça ne peut pas être pardonné. Alors que savez-vous, c'est quoi la majorité des gens, leur problème? Bon, j'ai pas vraiment besoin d'être pardonné. Ils voient pas quelque chose de pertinent. Eux autres disent, c'est tellement grand comme problème, est-ce que Dieu même est capable de le régler? Puis je leur dis, oui, absolument. Et je m'appuie sur Ésaïe 61.1. L'Esprit, puis ça, c'est Jésus qui a accompli ça. Jésus, en étant dans la synagogue à Capernaum, a lu ça dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint, ou il m'a désigné, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il dit au gars, tu peux être plus libre que le gars qui sort à chaque jour, parce que tu peux être libre de ton amertume, de ta colère, de ta culpabilité. La vraie liberté, ce n'est pas juste celle qu'on vit avec dans le monde physique, c'est spirituel. Et c'est vrai pour vous ici ce matin, Jésus est venu dans une mission de libération. On voit ici une quadruple libération que Jésus a accomplie et qu'il offre à tout le monde qui accepte la provision. Et vous savez, Jésus est l'ultime provision de Dieu. Abraham, son fils, en est sur la montagne, puis là, tout était prêt, il y avait le feu, il y avait le bois, puis là, Isaac, ça retourne vers son père, il dit, OK, on a tout ce qu'il faut, mais c'est quoi le sacrifice? Et la réponse d'Abraham était prophétique, il dit, l'Éternel va se pourvoir lui-même. Puis, savez-vous quoi? À cause que Abraham ne pouvait pas offrir son fils Isaac, ce n'était pas le sacrifice ultime. 2000 ans plus tard, Dieu, sur cette même montagne, a offert son fils unique, Jésus. Et là, il a été donné comme sacrifice. Et c'est ça la provision de Dieu. Est-ce que tu as reçu cette provision? Ou est-ce que tu essaies encore d'être une bonne personne puis de pourvoir toi-même? Est-ce que Dieu a déjà pourvu? Moi, je n'ai pas pour toi, mais rentre pas en compétition avec Dieu. Si Dieu a déjà donné parfaitement, accepte-le. C'est tout ce que Dieu demande. S'humilier et dire, c'est vrai, je ne pourrais jamais faire mieux que la croix du calvaire. Je ne pourrais jamais faire mieux que le triomphe du tombeau vide. Ça mène à la dernière grâce, celle de sa présentation, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ça, c'est la grâce de l'expression. Dieu a exprimé qui il est et a présenté la personne qu'il est. Et je vous lis un passage, puis je vais vous expliquer après, toujours dans Ésaïe 40, mais à partir du verset 6. Et voici, puis là, c'est une autre voix, on a entendu celle-là prophétiquement de Jean-Baptiste tantôt. Une voix crie et il répond, « Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Évidemment, il y a la parole écrite, la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a vu au tout début du message? Jésus est la parole incarnée, la parole faite chair. Dieu n'a pas juste des choses qu'il nous a dit comme ça pour qu'on entende avec nos oreilles. On peut le voir parce qu'il est venu à nous. Jésus est un personnage historique réel. Si vous doutez de Jésus, il va falloir que vous jetiez par-dessus bord toute l'histoire antique. Parce que Jésus est plus prouvé que Jules César. Parce que tous les documents, tout le poids historique du fait que Jésus, cet homme, dans la Galilée de l'époque et puis dans Israël de l'époque, le fait qu'il ait marché sur terre, c'est plus prouvé que tout autre fait historique de l'époque. C'est-à-dire, puis même pas proche, là. Tu sais, on parle là, d'une preuve accablante, là. Puis c'est pas juste, ah oui, tous ses amis sont mis ensemble, ah oui, on va dire que c'est lui. Non, même les ennemis prouvaient qu'il était là parce qu'il l'haïssait, puis il parlait de lui. Donc, il prouvait bien qu'il y a eu un Jésus qui est venu, puis qui disait qu'il était Dieu, puis tout ça. Puis eux, ils n'aimaient pas ça, mais ils ont prouvé que justement, il était là, et aussi ce qu'il disait. Donc oui, Dieu s'est présenté à nous, puis il est venu pour communiquer, pas juste communiquer des idées, pas juste amener un beau message, comme certains vont dire, mais communiquer la vie. Jésus est la parole vivante qui donne la vie. En lui est la vie. Écoutez ce que ça dit dans Hébreux, à ce sujet-là, Hébreux 1, l'ouverture de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, ça c'est l'Ancien Testament, dans ces derniers temps, ça c'est le Nouveau, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et par lui il a créé l'univers. Le Fils est le rayonnement de la gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est celui qui fait connaître Dieu. Vous voulez connaître Dieu? Tournez-vous vers Jésus. Tout ce qu'on peut connaître sur Dieu, Jésus nous le révèle. Et donc, ça m'amène à terminer avec ceci. Est-ce que Jésus s'est présenté à ton cœur? Parce qu'il y a une différence d'à peu près 12 pouces, là, entre ici et là, ça dépend d'où qu'on parle. Le salut, ce n'est pas un assentiment intellectuel. Ce n'est pas juste reconnaître des faits, oui, ok, je reconnais qu'il y a un Jésus. Non, c'est une conviction du cœur. C'est voir que c'est la réponse à mon plus grand besoin, que je suis dans le besoin, puis qu'il y a une solution. Mon plus grand besoin, il est spirituel, je suis perdu sans Dieu, je n'ai pas d'espoir en dehors de Jésus. Il y a une histoire là-dessus que j'aime beaucoup, puis M. Côté, à un déjeuner d'évangélisation, un moment donné, il avait amené ça, il avait trouvé ça bon, c'est dans Marc, avec un aveugle qui est là sur le bord, puis il entend que Jésus est là. Puis là, les gens, ils crient, « Aie pitié de moi, fils de David! » Puis les gens, « Non, non, arrête, là, tu le déranges! » Mais lui, au lieu d'écouter, il crie encore plus fort, « Aie pitié de moi, fils de David! » Puis qu'est-ce qu'on voit? Jésus s'arrête. Écoutez ce que ça dit dans Marc 10, 49. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Est-ce que Jésus s'est arrêté pour toi? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu peux dire, Jésus s'est révélé à mon cœur? Puis sinon, savez-vous quoi? Si tu entends que ça t'interpelle, que c'est lui qui t'appelle, il s'arrête pour toi là ce matin. Entends-tu, Jésus t'appelle. On a un ami commun qui est avec le Seigneur maintenant, Eric. À toutes les fois que je chante ce cantique-là, je pense à lui, parce que c'est un cantique qu'on chante dans le livre bleu, justement. Puis c'est un cantique qu'on appelle pour appeler les gens à répondre à l'appel de l'Évangile. Ça dit « Entends-tu, Jésus t'appelle? » Puis Éric, il entendait ça, puis là, c'est la troisième histoire. Ça le travaillait, il était dans son banc. Puis, il dit, il y avait le Seigneur qui me montrait, « Hey, Jésus t'appelle, vas-tu répondre? » Puis il y avait le diable, il disait, « Ben non, mets ça plus tard. » Puis finalement, il a cédé. Il a dit, « Ok, Dieu, je réponds à ton appel. » Puis il a été sauvé cette journée-là. Éric Sirois, quand on a à peu près le même genre, je pense qu'il est né en 74 ou 15, là. Puis là, ça fait déjà une couple d'années qu'il est allé rejoindre son sauveur. Il a eu une vie difficile, mais c'était tellement une bénédiction. Ceux qui connaissent Éric, il était tellement une bénédiction, ce cher Éric. Dieu a fait quelque chose de beau dans sa vie. Et donc, c'est un message simple que j'ai à vous partager ce matin. Mais il y a une urgence à répondre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire que si Dieu vous parle et que vous dites non, votre cœur s'endurcit toujours un peu plus. Écoutez aussi ce que ça dit dans Hébreux au chapitre 4. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, le repos d'être sauvé, d'être réconcilié avec Dieu, tandis que la promesse de son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Car cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est l'Évangile, c'est ça l'idée de bonne nouvelle, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que tu crois ce qu'a entendu? Est-ce que tu te confies dans le fait que Jésus est venu, plein de grâce et de vérité, pour te sauver, pour te donner la vie? Et cette grâce, c'est une grâce, mais elle exige d'être reçue. Ça veut dire, comme je viens de le dire, de ne pas être remis à plus tard. Et non plus d'être comparé à meilleur, parce qu'il n'y a rien de meilleur que la grâce de Dieu. Vous n'avez rien trouvé dans l'univers au complet qui est mieux que la grâce de Dieu. Ou de dire, ben, de mettre un peu votre valeur là-dedans. Là, je ne suis pas assez bon, ou je suis assez bon, je suis une bonne personne. La grâce, elle ne regarde pas notre valeur. La grâce, elle regarde à la croix et dit, ça te donne de la valeur. J'ai payé pour le rachat de tes péchés. Ça, c'est toute la valeur dont on a besoin. C'est Dieu qui nous la donne. C'est pas nous qui essayons de s'auto-évaluer, mais c'est Dieu. Parle son sacrifice. Et donc, la grâce de l'incarnation, c'est la grâce du Dieu vivant qui vient à nous. C'est la grâce du Dieu aimant qui s'abaisse afin qu'on puisse être élevé. C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant qui subit la colère de Dieu afin qu'on puisse en être épargné. C'est la grâce du Dieu triomphant qui subit la mort afin de nous donner la vie. Exaltons ce Dieu extraordinaire. Adorons-le. Répondons à ce que lui, en ce moment, à notre cœur, il nous appelle à faire. Merci Seigneur pour ce temps. Où est-ce que tu te fais connaître, Seigneur? Tu n'es pas un Dieu qui reste dans un coin puis qui n'est pas intéressé à l'humanité, qui n'est pas intéressé à ce qui nous arrive. Au contraire, tu t'impliques encore, tu t'es impliqué à grand prix en venant à nous. Et merci que encore ici ce matin, tu viens à nous, tu es là au milieu de nous comme ce héros qui sauve, qui donne la vie, qui est prêt à pardonner, à donner la vie à quiconque s'approche de toi par la foi. C'est pas plus compliqué que ça. Le juste vivra par la foi. Seigneur, je te prie pour ton œuvre extraordinaire de vie, de restauration, de réconciliation. Merci que tout est accompli. Tu as pourvu. Il n'y a plus rien à rajouter. Seulement accepter de dire merci Seigneur que tu as tout accompli. Merci pour Jésus qui est venu nous faire connaître le Dieu extraordinaire, trois fois saint. Oh Seigneur, sinon c'est un terrible jugement qui attend. Il n'y a pas des choses à prendre à la légère là-dedans. Voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Merci Seigneur pour ta patience, ta grâce et tes bras grands ouverts. Merci pour ce temps que tu nous as donné ce matin. Au nom de Jésus, Amen.